Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission qui s'appelle aussi Radicaux Libres. Mais c'est sur quel site, me demandera-t-on ? Eh bien sur radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de bagnole, ouais, ça fait déjà deux fois qu'on le fait, qui tourne sur un circuit, ah bah c'était exactement ça, à l'occasion de la course Le Mans Classique qui a lieu ce week-end pour les auditeurs du direct. Le public n'est pas aussi fourni que pour les 24 heures, non, on n'atteindra pas les 350 000, mais c'est beaucoup plus riche. On peut le voir avec les sponsors, comme un certain Floyd, qui vend des valises à 500 euros pour l'entrée de gamme, et de Whitebit, une plateforme de crypto. Ouais, ça ne s'adresse pas à tout le monde. On peut le voir à travers les véhicules à moteur qui circulent en ville avec des plaques d'un petit peu partout en Europe, de la grosse Merco, de la Jaguar, de la Maserati, j'en passe, et du pire. Pendant la fin du monde, la bourgeoisie continue de s'amuser et de montrer ses signes extérieurs de richesse. Ils sont vraiment pitoyables, hein, totalement soumis à la consommation ostentatoire décrite par Thorstein Veblen dès la fin du 19e siècle. Maintenant, si la pitié vous étreint en les voyant parader à pied ou en bagnole, n'oubliez pas leur rôle dans la fin du monde. On aurait pu vous parler de l'article du Canard Enchaîné de cette semaine qui explique comment les policiers qui manifestaient le mardi 30 juin, devant le ministère de l'économie à Paris, ont vu leur traitement maintenu. Pas de retrait d'une demi-journée de salaire pour ces fonctionnaires. Eh, personnellement, je ne connais pas une autre profession où on est payé à faire grève. C'est cool quand même. On aurait pu vous parler de Laurent Wauquiez qui renie les paroles de Laurent Wauquiez. Dans le même style, quand j'entends Gabriel Attal parler de cap, je le vois louvoyer au gré des faits divers. Du coup, on va pas en parler. On aurait pu vous parler d'un texte de loi qui doit passer à l'Assemblée nationale le 7 juillet, qui permettrait d'instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre qui tueraient des gens dans l'exercice de leurs fonctions. Eh ben ouais, à un moment, il a sorti sa main de sa poche et bing ! Non, mais c'est arrivé quand même, hein. Une pétition est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale qui donne des arguments contre cette proposition de loi pour voir pourquoi elle n'est pas terrible en fait. Vous allez sur pétition.assemblée-nationale.fr/initiative/i-6334. I-6334. On aurait pu vous parler du RN encore rattrapé par une affaire de détournement de fonds publics. Ah bon ? Même si ce sont des fonds de l'Union européenne, les plus anciens auditeurs se souviendront d'un slogan du parti qui abrite plein de gentils nazis et qui s'appelait alors le Front National. L'entreprise politique familiale des Le Pen affirmait en 1993 pour les législatives « main propre et tête haute ». Bon, pour les coups de menton agressifs, pas de soucis, hein, ils sont habitués. Mais pour les mains propres, on repassera. Si vous voulez savoir quel est le palmarès judiciaire du FNRN, et je ne parle même pas des condamnations de ses membres pour racisme, antisémitisme, incitation à la haine, meurtre à caractère raciste, comme en 95 à Marseille. Non, je parle des affaires de détournement de fonds publics, ce qui la fout un petit peu pas mal pour parler de mains propres. Ah, mais je me répète. Je vous conseille la page Wikipédia sur ce parti, et dans le sommaire, cherchez condamnations et affaires judiciaire. Par contre, il faut un petit peu de temps devant soi. Hein. On aurait pu vous parler des soldes d'été dont on a appris cette semaine qu'elles sont prolongées pour compenser le manque de consommation durant la canicule. Multiplier les échanges marchands, faire grimper le PIB, générer de la croissance. Voilà le sens que les libéraux veulent donner à nos vies. On vous rappelle que personne n'est obligé de participer. On aurait pu vous parler également des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Elles ont pour président un certain Jean-Hervé Lorenzi et regroupent la fine fleur du libéralisme économique. Jean-Hervé Lorenzi est le créateur dans les années 90 du Cercle des économistes qui a micro ouvert sur France Info par exemple pour nous expliquer comment le capitalisme peut faire le bonheur du plus grand nombre. De tous, non, c'est pas l'objet. Non, les utilitaristes hein, qui ont donné les libéraux ont un petit souci avec l'ensemble. Non, tant que en moyenne, ça va, ça leur va. Surtout parce qu'eux, ils font plutôt partie du haut de la moyenne. Un certain Jean-Hervé Lorenzi s'attache d'ailleurs à longueur de livre à remettre le capitalisme sur les rails. Pour lui, Il faut mieux répartir les profits pour ainsi assurer la productivité maximum de l'activité de production de richesse. Ouais, c'est pas pour que les gens aillent mieux, non, non. Le bon ratio, c'est 2/3 pour le travail, 1/3 pour le capital. Ainsi, les ressources humaines ne crèvent pas la dalle et les détenteurs des moyens de production s'enrichissent sans à-coup. C'est cool. Alors que là, non, il y a un peu trop pour le capital. Les gens qui travaillent, ils sont pas bien. Durant les rencontres économiques d'Aix, les promoteurs de l'allongement du temps de travail, du recul de l'âge de la retraite, de la baisse des charges, j'en passe et du pire, hein. Parce qu'il y aura des gens aussi pour vous dire « vaut mieux investir dans l'armée, là, plutôt que dans le social. » Social, c'est pour les gens pauvres. Là, tu laisses tomber ce truc et par contre, t'achètes un petit peu de matra. Ah ouais, du matra, ça va monter, ça. J'en passe donc et du pire. Eh bien, tout ce beau monde va dérouler son programme pour remettre la France au travail et vous ne louperez rien tant les relais médiatiques sont nombreux. Mais rappelons quand même que dès le titre, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, l'arnaque est patente, puisque dans les rencontres économiques est oublié l'adjectif capitaliste. Mais finalement, on a préféré vous parler de dérèglement climatique, favorisé par l'industrialisation du monde et la quête illimitée du profit si chère aux libéraux en économie. Ça va être fun. Fin mai et durant une quinzaine de jours en juin, la majorité des départements français de métropole s'est retrouvée sous un régime caniculaire, soit en vigilance rouge, rouge foncé d'ailleurs, soit en vigilance jaune. Les températures ont souvent dépassé les 40 degrés le jour à l'ombre et ne descendaient pas sous les 25 degrés la nuit. Vendredi 3 juillet, les autorités ont donné un premier bilan basé sur la surmortalité constatée en comparant la semaine du 15 au 21 juin et celle du 22 au 28 juin. Selon un décompte encore provisoire, on sait que 2000 personnes de plus sont mortes durant la semaine du 22 au 28 juin. Parmi ces décès, un chauffeur routier belge de 62 ans mort d'hyperthermie à Bazeille, dans les Ardennes. Jeudi 25 juin, le même jour, c'est un Tchèque de 60 ans qui fait un malaise cardiaque vers 14h, 14h, c'est-à-dire midi au soleil, sur le site de réfection d'un four au Tréport, sur la côte de la Manche. Le lendemain, on apprend qu'un agent d'entretien de 33 ans a fait un arrêt cardio-respiratoire dans le département du Nord. La température de son corps était à 42 degrés. La liste est longue et fait baisser l'âge moyen des victimes de la canicule dont les autorités assurent qu'elles sont le plus souvent des personnes âgées. Ouais, donc qui devaient mourir. Ouais, par contre là, le mec de 33 ans, agent d'entretien, je sais pas. Durant cette semaine de canicule, l'un des débats concerna les fringues. Les fringues des salariés. Oui, sur BFM, jeudi 25 juin, on a pu entendre ça.
Est-ce qu'il faut, en période d'ultra-canicule comme en ce moment, autoriser les tenues légères, les shorts, les bermudas, les tongs? Oula, vous regardez comme si j'avais...
Non, pas du tout, non, ça ne me choque pas. Non, je l'ai dit
on
moi-même.
Peut venir travailler en tong?
Ben, en tong, je ne sais pas, je ne crois pas. Le tong, si vous, franchement, moi je vous réponds plutôt en patron d'entreprise, là, c'est pas le ministre.
Si j'étais votre employé et que j'arrivais en tong...
Vous voulez qu'on fasse une loi pour savoir si on peut venir travailler en tong ou pas? Non, il faut être là encore du bon sens.
Si j'étais votre employé et que j'arrivais en tong, vous me diriez quoi?
Ben, de revenir avec des baskets. Vous pouvez avoir des petites chaussettes et des baskets ou des sandales élégantes, c'est très bien.
J'en ai pas, hein, je précise. Je ne suis pas en tong.
Non, oui, ce qui compte, c'est le respect de votre tenue. Si vous êtes dans un travail commercial, il faut être habillé correctement. On m'a posé la question, pourquoi pas un bermuda? Mais s'il est bien coupé, si c'est un vague short, un peu trop court, non, c'est du respect. Si vous avez un bermuda bien coupé, une chemisette impeccable, des chaussures très bien soignées, ça passe bien, vous voyez. C'est le bon sens qui compte. Et il ne faut pas demander... Bientôt, on va normer, donc, quelles sont les tenues vestimentaires. Enfin, je crois qu'il faut s'arrêter, là encore, entreprise par entreprise, métier par métier, situation par situation, par le dialogue social, là encore, je pense qu'on peut trouver les bonnes solutions.
Pendant ce temps-là, eh bien, je rappelle que des gens mouraient au travail. Jean-Pierre Farandou, ministre actuel de l'économie capitaliste de 69 ans sans un cheveu blanc, répondait en chef d'entreprise. Oui, oui, il invoque le bon sens, alors qu'il vante en fait les valeurs de la bourgeoisie, en l'occurrence le paraître, qui prime largement sur le fond. Il le fait depuis un studio climatisé de la chaîne de télé BFM, où personne ne sue malgré la chemise, la veste et la cravate. Mais M. Farandou est pour le dialogue social. C'est d'ailleurs l'un des chantres de ce dialogue, que c'est comme ça qu'il fut présenté lors de sa nomination en 2025. C'est pourquoi il ne va pas faire de loi sur les vêtements en entreprise. Mais qu'en est-il de la norme? De ce qui lui paraît normal? Petit extrait.
Et il ne faut pas demander... Bientôt, on va normer, donc, quelles sont les tenues vestimentaires. Enfin...
Ah ben ouais, c'est intéressant d'entendre qu'il refuse de normer dans le champ de sens législatif. Mais par contre, il faut une chemisette impeccable, vous l'avez entendu auparavant, un bermuda bien coupé et des chaussures très bien soignées. En clair, si tu ressembles à un gonze des catégories socio-professionnelles supérieures dont il est, Monsieur Farandou, si tu ressembles à Monsieur Farandou en vacances, ben ça passe. Pendant ce temps-là, des millions de personnes s'épuisaient la santé dans des services publics, dans les entreprises pour faire tourner une machine mortifère qu'on appelle l'économie capitaliste, basée sur la philosophie libéral appliqué à l'économie. Un second débat concernait le congé climatique, proposé par les écologistes qui n'en finissent pas d'accompagner le capitalisme. En tout cas, parmi leurs dirigeants. Oui, il y a des broncas dans les militants. Mais bon, les dirigeants, ils sont soi-disant des représentants. Toujours sur BFM, propriété de Rodolphe Saadé, le dirigeant de la CMA-CGM, un armateur qui transporte des marchandises à travers le monde et qui n'a donc aucun intérêt à ce que cette activité s'arrête. Samedi 27 juin, sur BFM, dans l'émission qui accueille l'ex-ministre de l'économie et du redressement industriel, un certain Arnaud Montebourg, l'invité était Amir Reza Tofighi, président du syndicat patronal des entrepreneurs, l'ex-CGPME. On pouvait entendre ça.
Il faut arrêter de toujours penser que la solution, c'est de travailler moins. Ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose, la solution, c'est de travailler moins. Il faut faire confiance aux entreprises, à leurs salariés. Il faut faire confiance aux filières, parce que, vous savez, dans les métiers, on a des solutions à chaque fois. Je vous donne un exemple, mais la filière du bâtiment, lorsqu'il fait très chaud, ils ont des règles. Ça veut dire qu'ils travaillent très tôt le matin et puis ils travaillent plus tard le soir. Et après, dans les heures où il fait très chaud, ils ne travaillent pas.
Donc, des négociations collectives qui ont lieu avec les organisations syndicales où vous adaptez la loi aux contraintes du métier. Quand vous êtes en extérieur, en charpente, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes dans une boucherie climatisée.
Exactement. Et encore une fois, en France, on veut faire une loi pour tout le monde, alors qu'on pourrait juste faire confiance aux entreprises, aux salariés, alors aux représentants des salariés, donc aux syndicats de salariés, pour trouver les bonnes réponses en fonction des cas.
Ouais, c'est intéressant, hein, cette histoire de théorie, parce qu'au mois de mai, fin mai, il y a un jeune homme de 19 ans qui était couvreur et qui est mort dans une après-midi où il faisait chaud, très très chaud. Oui, sans surprise, le syndicat de patrons est contre le congé climatique, car il faut faire confiance aux entreprises, donc aux dirigeants des entreprises, ceux qui ont le carnet de commandes à tenir avec la pression des clients et des autres boîtes de la même filière, et qui en plus essaient de faire le plus gros chiffre d'affaires pour que la boîte tourne. Il faut faire confiance à un système économique qui brutalise systématiquement les rapports sociaux et appelle ceux qui travaillent des ressources humaines. Est-ce bien raisonnable ? S'ensuit un dialogue sur l'exemple de l'Espagne, qui a mis en place un congé climatique de 4 jours. Attention, surréalisme.
Mais c'est un pays qui connaît 3,5% de croissance en 2024, 2,8% en 2025, c'est-à-dire presque 3 fois ce que nous connaissons en France, qui a un déficit public de 2,2%, nous on est à 5,5%, bientôt 6%, et qui va connaître un excédent primaire qui permet de diminuer la dette. C'est la réussite européenne. Ils sont à l'origine de 40% de la croissance européenne. Le gouvernement a dit les problèmes climatiques, on va les régler par la loi pour tout le monde. Là, ils ont fait le contraire de ce que vous suggérez. Mais il y a des augmentations de salaire de 3,5% en 2025. C'est vous dire que c'est un pays qui devient de plus en plus prospère. Nous n'avons pas cette prospérité. Donc, comment on fait quand on n'a pas cette prospérité et que néanmoins, il y a des revendications qui s'exercent? Comment vous réglez le problème des salaires, comme les Espagnols sont en train, ils redistribuent une partie pour les salariés de cette prospérité collective?
C'est une très bonne question parce que, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui a de la croissance. C'est un pays qui crée de la valeur. Et quand on crée de la valeur, après, on peut débattre de la répartition qu'on fait. Or, le problème en France, c'est qu'on n'arrête pas de parler de répartition au lieu de parler de créer de la valeur. Regardez aujourd'hui, dans tous les débats politiques, dans tous les débats publics, est-ce que quelqu'un dit comment on fait pour atteindre 2% de croissance pour le pays? Parce que si on atteint 2% de croissance, oui, à ce moment-là, on peut parler de comment on crée des nouveaux droits, comment on fait pour que cette richesse elle soit mieux répartie. Mais aujourd'hui, personne ne parle de ça. On parle à chaque fois de nouveaux droits, sans parler de créer de la valeur pour financer ces nouveaux droits. Et donc ça, c'est le mal français. Ce que nous, on dit, les entrepreneurs, c'est que l'objectif qu'il faut se fixer...
Oui, alors bon, je rappelle qu'au départ, le débat concerne le congé climatique. À quel moment les participants à cette émission oublient qu'ils parlent d'autres êtres humains? Comment font-ils pour avoir comme priorité la création de valeur? et simplement la création de valeur. Croit-il vraiment qu'on peut mettre en balance la hausse du produit intérieur brut et la santé des salariés? Alors pour répondre à leur place, je dirais dès le début de la conversation, par égoïsme et bien sûr, puisqu'ils croient une hiérarchie entre ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien, pour reprendre les paroles du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. Mais qu'on se rassure, globalement ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé puisque les adaptations, maître mot de cette semaine, étaient anticipées. Afin de connaître le vrai bilan de l'inaction climatique de ceux qui se font passer pour nos représentants, je vous conseille d'écouter l'intervention de Cyrielle Châtelain, députée écologiste de l'Isère, mercredi 1er juillet à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement. Alors la réponse de Sébastien Lecornu n'est pas nécessaire, elle témoigne simplement de l'attitude du gars qui devrait assumer, mais préfère parler fort pour cacher ses erreurs. Et dans le coin, alors, comment ça s'est passé? Eh bien, pour le savoir, on s'est coltiné le Maine Libre, du lundi 21-22 juin au samedi 27 juin. La canicule a fait la une toute la semaine, soit qu'elle occupe la moitié haute de la une, soit qu'elle est le gros titre avec des déclinaisons en page intérieure. Incongruité, mercredi, sous le titre en gros et gras, comment ces villages s'adaptent, une photo de Stéphane Bern, sartois de cœur. Cet amour pour le département devient l'info du jour. Jamais la canicule en tant que telle n'a été l'objet d'un article de fond entre le lundi 22 juin et le samedi 27. En tout cas, pas dans les pages qui concernent le département et les départements limitrophes. Elle est présentée comme du jamais vu, c'est tout, spectaculairement. Lundi 22 juin, le titre en une, un record de chaleur attendu en Sarthe. Et les jours suivants, il y a des encarts ou des articles qui montrent par des chiffres que les records sont tombés, sont battus. Des records, ouais, voilà, on se retrouve dans une compète. Mardi 23, en page 2, sont recensés les 10 jours les plus chauds au Mans, où l'on voit que 6 dates sont entre 2019 et 2026. Ce qui montre indirectement le dérèglement climatique. Très indirectement. Ce dernier est évoqué le plus souvent sous la forme de réchauffement climatique, mais rarement on a affaire aux causes. En tout cas, jamais dans un article dédié. Dans l'édition du jeudi 25 juin, dans un article intitulé « Le Maine Libre passe au banc d'essai 4 modes de transport », était interrogé le lobby 40 millions d'automobilistes. Une association créée par la CO pour défendre les automobilistes, la bagnole en gros, une association qui a micro ouvert et plateau ouvert dans toute la galaxie des médias d'extrême droite, on les voit régulièrement à CNews, on les entend sur Radio Courtoisie, sur Tocsin, Sud Radio, j'en passe et du pire. C'est l'occasion pour le journaliste de faire un petit rappel après que le lobby 40 millions d'automobilistes ait fait le panégyrique de la bagnole. Je cite donc ce que dit le journaliste à la fin de l'article. Rappelle que les véhicules thermiques contribuent fortement au rejet de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Bon, on l'a déjà dit, mais on aurait préféré des règlements climatiques. Mais au moins, il y a une mention des acteurs de la fin du monde. Cette prise de conscience n'a rien de systématique. Par exemple, deux pages plus loin, toujours dans l'édition du jeudi 25 juin, un article parle des soldes qui ont commencé la veille et de l'absence de clients dans les magasins. Mais le Maine Libre a rencontré un couple dans le centre commercial des Jacobins qui accumulent les achats. Pas le centre Jacobin, hein, mais les couples. Et la femme, citée dans l'article, indique benoîtement « On va aller à la galerie Auchan après parce que c'est climatisé. » Donc prendre sa bagnole en plein cagnard et gaspiller de l'énergie dans le but de faire des bonnes affaires, ça passe. Dans l'article, rien sur le coût environnemental de tous ces chalands qui font des bornes entre les centres commerciaux. Mais par contre, une info. La galerie Auchan est climatisée. Elle est adaptée. L'adaptation. Voilà le maître mot de la semaine du Maine Libre. Plus au début qu'à la fin. Lundi, on peut lire. Lundi, je retrouve mon papier. À page 3, à Mansigné, l'aquapark adapte ses horaires. Les parents d'élèves s'adaptent, on s'organise comme on peut. Un article sur l'EHPAD également, à la Reposance au Mans, qui accueille 112 résidents. L'adaptation est devenue une priorité. On peut lire encore, page 6. L'extrême chaleur coupe l'appétit, peu de monde dans les restaurants malgré l'adaptation des menus. Un intertitre à propos d'un coup de chaud en cuisine, puisque reportage dans les restos. Ouais les gens, faut continuer à vivre. Hein. Intertitre, détenu adapté. Après, on apprend que la direction s'est adaptée en acceptant que nous délaissions nos tenues noires. Waouh, super, gentil la direction. En page 11, les communes s'adaptent à la chaleur. Dans les communes du secteur, on s'adapte à la chaleur actuelle. Bah ouais, on s'adapte. On retrouve ça également mercredi, par exemple. Climat, comment ces villages s'adaptent ? Plein d'adaptations. Et là, on est très content. Mercredi 24 juin, en page 2, en surtitre, canicule. Un titre, enquête de frais sous les toits. Et en sous-titre, qui sert de chapeau, face aux températures caniculaires, des solutions existent pour rafraîchir son logement, des plus coûteuses aux plus simples. En fait, ça va de la clim au blanc d'Espagne. Donc, on s'adapte. En début de semaine, les adaptations sont la solution. On peut y arriver. Au fur et à mesure, le verbe est moins utilisé, surtout que l'adaptation n'est pas vraiment au rendez-vous. Et le simple fait de reporter ou annuler des activités n'est pas une adaptation au dérèglement climatique. Non, c'est un constat d'impuissance. Cette impuissance transparaît plusieurs fois dans cette semaine de Maine Libre. Ainsi, vendredi 26 juin, un article sur Savigny-l'Évêque montre les limites de la réaction en urgence. Et on est bien content qu'il y ait des gens qui le disent. Et puis après ? Ben ouais, parce que c'est l'urgence, c'est bien beau, mais après, qu'est-ce qu'on fait après ? Samedi 27, un reportage dans l'école Gérard Philippe au Sablon, rénové à grands frais, permet de savoir que les températures ont baissé de 5 degrés depuis les travaux. Waouh ! Seulement le constat, c'est qu'à 40 degrés à l'ombre dehors, ça donne 29 au rez-de-chaussée et 32 à l'étage. On ne peut pas parler de température confortable. L'adaptation montre très rapidement ses limites et l'ensemble des articles et plateaux de la presse ont beau nous faire des discours qui nous parlent d'adaptation en veux-tu en voilà, également les discours de nos soi-disant représentants, eh ben ça n'y changera rien. L'adaptation n'est pas suffisante. Il va peut-être falloir trouver des solutions de fond. Alors les solutions deviennent pires que le mal. C'est typiquement ce que les aménageurs appellent la maladaptation. Quand l'action pour contrecarrer le problème aggrave le problème. Et du coup, on a des petits articles sur la clim et les piscines. Jeudi 25 juin, la Une aborde, je cite, « la ruée vers les hôtels climatisés ». En page 2, « la clim, ses avantages et ses inconvénients ». Alors, on sait qu'il y a un avantage à court terme, enfin dormir pour être productif au boulot le lendemain, mais à quel prix ? La fabrication, le transport et l'utilisation de la clim sont des puits de production de gaz à effet de serre. Est-ce que vous connaissez le PRP, ou potentiel de réchauffement planétaire ? En anglais, ça donne GWP, pour Global Warming Potential. C'est l'unité de mesure de dérèglement climatique du fluide réfrigérant présent dans votre clim. Plus c'est élevé, plus votre clim contribue à la fin du monde. Alors faites un petit peu attention, parce qu'on nous dit « oui, mais en cas de fuite, etc. Bah, » En fait, le fluide, à un moment, il s'use. S'il s'use, c'est qu'il est bien passé quelque part. S'il est passé quelque part, c'est qu'à un moment, on le retrouve dans l'atmosphère. Plus c'est élevé, plus votre clim contribue à la fin du monde. Cherchez le PRP sur votre clim. Alors, autre solution, la piscine. Samedi 27 juin, l'édition du Maine Libre commence par une alarmante. Je cite « les signaux alarmants de la vague de chaleur ». Et page 2 à 4, un dossier. Page 2 et 3, on a le système de santé qui morfle, l'interdiction des compétitions sportives en extérieur, l'hécatombe des animaux élevés pour être mangés, la vie en prison des détenus et de leurs gardiens partant de canicule. Mais ouf ! Page 4, ouais, faut pas désespérer Billancourt, une page de pub pour les piscines. Ah non, c'est un article en fait. C'est un article pleine page, avec des photos de gens heureux, très très heureux, de vendre et d'acheter une piscine. Le dernier paragraphe vaut son pesant de greenwashing. Alors, il est question d'un personnage qui s'appelle Philippe Gauthier, directeur animation du réseau France, d'un groupe de vendeurs de piscines. Et donc, le journaliste nous dit « Ce dernier remarque, il convient de le signaler, comme d'autres acteurs du marché interrogé, l'émergence d'une conscience écologique chez les acheteurs de piscines et spas, économie d'eau, système de filtration, traitement plus vert, font partie des préoccupations de la clientèle, prête à mettre plus cher pour s'équiper et agir de façon responsable. Waouh ! Vas-y consommateur, lance-toi. Toi qui es si bien nommé, puisque tu es sommé de consommer, et puis là, ta vie en dépend un petit peu. Achète une piscine, elle peut être écolo. Enfin plus écolo. Enfin moins nocif que d'autres. Bon, comme c'est compliqué, on va rester sur l'assertion de départ. Elle est écolo ta piscine. Et la preuve, sur le contrat de vente, il y a du vert. Enfin, c'est même que vert. C'est tellement une bonne idée de s'équiper d'une piscine alors que la préfecture de la Sarthe multiplie les arrêtés de restriction d'utilisation de l'eau depuis la fin mai. Ah ouais, ouais. Alors pour s'en convaincre, allez faire un petit tour sur vigio.gouv.fr. Vigie, ça s'écrit V-I-G-I-E-A-U. Vous avez tout les arrêtés de restriction d'eau, et vous verrez que la Sarthe n'est pas en reste. Mais alors d'où nous vient cette canicule? On ne peut pas compter sur le Maine Libre pour le savoir, puisqu'il n'y a pas d'article de traitement sur le fond. Mais ce n'est pas son objet. Hein. Le Maine Libre, bah, lui, donne des infos locales, toutes les infos locales. Par exemple, il y a eu un petit délai de rigueur hein, quand même. Vendredi 26 juin, on a un article pour Arnage qui rappelle ce qui s'est passé le samedi 20 juin. Ça s'intitule « Le jour le plus long à l'aérodrome ». Les Ailes du Maine, une association qui fait bah, des voyages en avion. Les Ailes du Maine, contents de la journée porte ouverte. Je cite « Tous les avions du club ont volé pour l'occasion, dont un dès 6h du matin et le dernier à 23h », nous dit Didier Lebar, secrétaire général des Ailes du Maine. Dans l'article, rien, mais rien, rien sur l'impact environnemental de cette activité. Les avions, les bagnoles, bon, quand même, il y a des petites choses qui nous disent que ça participe aux gaz à effet de serre, à la multiplication des gaz à effet de serre dans notre environnement. Mais surtout, ce qui pourrait être intéressant, c'est de parler de ceux qui s'en servent. Et là-dessus, ben, on n'est pas tous égaux. D'ailleurs, on verra ça la prochaine fois. Comme tous les samedis depuis octobre 2023, une manifestation qui permet de manifester sa solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Ça devrait avoir lieu à 14h. Ah non, là on nous parle de ça à propos du guet de Molny pour le festival Plein Champ, puisque une personne est invitée, une certaine Barbara Butch, qui a signé une tribune pour la loi Yadan. Est-ce qu'elle avait lu la tribune ou est-ce qu'elle s'est faite avoir par un copain à elle ou une copine? Je n'en sais absolument rien. On sait également qu'elle avait participé, qu'elle participerait, en tout cas selon les auteurs de la lettre ouverte, au pink washing israélien Barbara Butch. Donc, tête d'affiche du festival Plein Champ ce samedi 4 juillet pour les auditeurs du direct. Il est également fait mention à propos du festival Plein Champ de la présence d'un certain David M. Qui a agressé sexuellement une travailleuse du sexe avec une arme. Et ça, on trouve ça dans Le Télégramme et dans Ouest France-Bretagne à Plougonoff. Voilà, bon. Il est vrai qu'il faudrait peut-être faire attention aux gens qui sont embauchés. Et donc, il est appelé à manifester au parc du Guet de Molny sa solidarité avec des Palestiniens. Il y a également une marche des fiertés. Une marche des fiertés, donc la fierté homosexuelle. On vous rappellera hein, le problème qui avait lieu à San Francisco il y a très longtemps maintenant, près de 50 ans. Et qui a donné lieu justement à la création de ces marches des fiertés. Ce sera l'occasion de fêter les 30 ans de l'association Homogène qui met les fachos et les rageux homophobes un petit peu en PLS de fait, simplement par son existence. Il est proposé, alors la marche en question a lieu à 15h le samedi 4 juillet 2026, départ Esplanade des Jacobins. Et mettez-vous à l'abri et mettez-vous un peu à l'ombre quand même, parce que ça va être bien sympa sur cette place très très minérale. Eh bien, il est proposé également de se croiser, de se rencontrer pour ceux qui voudraient faire un cortège radical LGBTQIA+, à 14h30 entre le cinéma pâté et le théâtre des Quinconces, là où il y a un courant d'air et de l'ombre, pour faire des pancartes et puis pour se retrouver avant de participer à la manifestation. Ça a lieu aussi donc le samedi 4 juillet 2026, 14h30, entre le cinéma pâté et le théâtre des Quinconces. Que vous dire de plus? Eh bien que il y a l'assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre le lundi 6 juillet à 18h30. Ça aura lieu à l'Allumette, 7 rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu. Et que bah, l'Allumette est ouverte pendant le mois de juillet et qu'il y a des activités. On en reparlera la prochaine fois, mais n'hésitez pas à vous renseigner. L'Allumette, 7 rue de la Marne. Bon, bah, comme c'est l'heure, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Juste un petit allez, au revoir. Ou je suis pas au bon endroit. Ça y est, j'ai retrouvé.